Et ça va être le marqueur parce que à partir de là, je ne veux faire aucun lien avec lui. Comme il ne veut pas parler et que l'autre personne qui aurait pu me parler est dans une tombe, pour moi, je dois dire que je vais pas avoir mon histoire et je ne saurai jamais pourquoi j'ai été adoptée.
Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Lunise.
Bonjour Sarah.
Tu vas bien?
Je vais bien.
Alors, je vais te poser une question que je ne pose pas d'habitude. Est-ce que je peux te demander d'où tu viens?
Alors, je suis née dans une petite île un peu complexe qui s'appelle Haïti il y a 44 ans. Et je suis née à Port Margot, un village à côté de l'océan Atlantique.
Maintenant, est-ce que je peux te demander où est-ce que tu as grandi?
Alors, j'ai grandi jusqu'à mes presque 4 ans en Haïti. Et ensuite, j'ai grandi en Eure-et-Loir, dans des petits villages entre Dreux et Chartres.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as fait ce voyage entre Haïti et est-ce que tu te souviens, parce qu'on peut le dire, donc tu as été adoptée, est-ce que tu te souviens de ce moment de ton adoption ou est-ce que tes souvenirs commencent en France?
Mes souvenirs commencent en France. Mes souvenirs commencent à l'aéroport Charles de Gaulle, un 10 mai 1983. Nous sommes avec mon petit frère et ma grande sœur. Nous sommes adoptés et nous rencontrons nos parents. Et mes souvenirs commencent là. Je n'ai pas de souvenirs avant.
Donc, tu as dit un truc important. Tu n'étais pas toute seule.
Non, nous sommes trois. Odilia, qui est ma grande sœur, et Amaral, de mon petit frère.
Et ils avaient quel âge à ce moment-là?
Alors, mon frère avait 2 ans et demi et ma sœur allait avoir 6 ans.
Je me rends pas compte, c'est rare ou c'est courant d'adopter des fratries comme ça?
C'est extrêmement rare. On a beaucoup de chance d'avoir été adoptés tous les trois.
Est-ce que tu sais ce qui a décidé tes parents à accueillir une fratrie comme ça?
Alors, je le sais très bien, mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils ont essayé de par la procréation médicalement assistée, ils ont tout essayé, et malheureusement, pendant des années, ils ont essayé, ils n'ont pas pu en avoir. Et donc, un projet a mûri dans leur tête en se disant, on va adopter un enfant. Et je sais que un an à peu près avant qu'ils soient dans ce projet-là, ils se sont dit, si jamais il y a plusieurs enfants, on adoptera plusieurs enfants en même temps. Et voilà. Et ils attendaient vraiment d'avoir des propositions. Et ils ont eu deux propositions. Ils ont eu soit adopter un enfant seul qui venait, je crois, du Vietnam, soit adopter 3 enfants qui venaient d'Haïti. Et ils nous ont choisis parce qu'ils se sont dit, au moins on aura une famille entière dès le début. Voilà.
Ah, j'avais pas vu ça comme ça. C'est intéressant. Alors, pardon, je connais très peu de gens qui ont été adoptés. Je pose des questions peut-être un peu naïves. Quand on voit des séries ou quand on lit des articles, on sent que très souvent les enfants ont un sentiment de devoir être particulièrement sage, particulièrement reconnaissant. En plus, je précise que tu es noire, il y a un côté le cliché du sauveur blanc. Est-ce que tes parents avaient une approche saine de votre fratrie ou est-ce que et du coup te permettant toi d'être une petite fille qui pousse hyper sainement? Ou est-ce que tu t'es sentie obligée de pas les traiter comme un père et une mère à qui on a envie de dire merde parfois? Comment ça s'est passé?
C'est complexe. Je pense qu'ils avaient une approche saine, c'est-à-dire que on peut pas se mentir. On est tous les trois noirs et nos parents sont blancs. Donc mon père est brun aux yeux bleus, ma mère est blond vénitien rousse aux yeux bleus. Donc on peut pas rater ça. L'approche était saine. Par contre, l'image que ça peut donner de l'extérieur ou dans la famille, c'était plus complexe. Il y avait vraiment ce rapport de vous devez en faire plus. En faire plus, c'est en gros pas remercier, mais un peu quand même d'avoir eu cette chance d'être adoptés tous les trois, de ne pas avoir été séparés. Donc ça a pesé. Ça a énormément pesé sur si on faisait une bêtise ou une grosse bêtise, on va dire. Il y avait toujours des remarques disant mais vous réalisez la chance que vous avez, etc. Donc ça a été dur. Ouais.
C'est horrible. T'étais plutôt sage ou pas, toi?
Ouais. Alors moi, non, je serai jamais sage. C'est comme ça, c'est en moi. Je suis une battante, donc je suis sage quand il le faut. C'est-à-dire, j'ai compris très vite à quel point c'était important de bien apprendre en cours tous ces sujets-là. Mais j'ai un caractère fort, et je ne me laisse jamais faire. Donc, on peut pas dire que je sois sage.
Et tes frères et sœurs?
Ma sœur, ma grande sœur, très sage. Mon petit frère, beaucoup moins. Voilà. Donc je suis au milieu, donc ça tombe bien.
Assez rapidement, au cours de ton enfance, tes parents divorcent
Oui.
et vous restez avec votre maman.
Tout à fait.
Et t'es heureuse, toi, en Normandie, c'est une vie que t'aimes?
Alors, c'est pas la Normandie, c'est l'Eure-et-Loir, donc c'est
Ah.
la région centre, mais c'est pas très loin.
Pardon,
La
c'est bon.
Normandie, c'est vraiment à côté.
Ok.
Oui, je suis heureuse. J'adore grandir dans une maison ou des maisons, parce que on a été dans une première maison, après il y a eu le divorce, donc après on a été dans d'autres maisons hein, avec notre mère. Et je suis très heureuse parce que avoir cette possibilité de pouvoir sortir, de se balader, faire du vélo. J'adore le sport, donc je faisais du sport déjà à ce moment-là. Donc avoir la possibilité de sortir, aller courir dans les chemins de terre, c'était passionnant. J'ai adoré ça.
Est-ce que tu t'intéresses à ton histoire à toi?
Alors, lors de mon enfance, ça a été très compliqué. La chose compliquée, c'est que quand j'arrive en France, je vais avoir 4 ans. On arrive le 10 mai 83. Moi, mes 4 ans, c'est le 30 juin. Et je n'accepte pas d'être en France. Je refuse. Dans mon esprit d'enfant de 4 ans, les personnes qui viennent de m'accueillir sont très gentilles, mais je ne comprends pas pourquoi je suis là. Et surtout, je veux repartir. Je me dis, ils sont gentils, mais je vais repartir. Je vais retrouver ma mère. Mais je vais rentrer. Et donc, il a fallu un long temps d'adaptation. Alors que mon petit frère, qui était plus petit, s'est adapté tout de suite. Ma grande sœur, qui était plus grande, peut-être, comme elle est très sage, elle s'est adaptée, mais moi, je ne m'adaptais pas. Donc, j'ai eu des séances avec un pédopsychiatre pour accepter de me poser et de rester, parce que en fait ce que je faisais, c'est que j'étais la dernière à me coucher, la première à me lever, en m'imaginant que j'allais partir. Donc, l'attachement a été très très compliqué, et il a fallu peut-être 2 ans de travail pour que j'accepte que je n'allais pas repartir.
Que t'acceptes ou que tu te résignes?
Que je me résigne plutôt.
Ouais.
Voilà, que je pourrais pas repartir. Et donc, ce qui est paradoxal à ce moment-là, c'est que l'association par laquelle mes parents sont passés pour nous adopter, on continue à avoir des liens avec eux. Ils travaillent beaucoup avec Haïti et d'autres pays. C'est enfin ces partages. Donc, on a des liens avec eux, et surtout, c'est que ma mère biologique est toujours vivante, et donc, nous a laissé une espèce de pochette où il y a des photos, où il y a des lettres, où il y a son adresse, où il y a tout. Et donc, peut-être que d'avoir ça m'a empêché de me dire que je voulais pas lâcher, en fait. Je continuais à me dire, bah, je vais retrouver ma mère et ça a été compliqué. Et ça a créé des complications aussi dans les liens avec ma mère par rapport à ça. Parce que je ne voulais pas lâcher ma mère biologique.
Dès petite, tu savais que cette pochette existait avec des
Oui.
informations. D'accord.
Oui.
Donc tu avais le nom de ta maman, il y avait des photos?
Exactement. Il y a des photos de nous petits, nos passeports. On avait aussi les tenues qu'on a portées quand on arrivait en France, que j'ai toujours dans une malle. On avait tout ça. Et donc, ça a été compliqué. Et c'est avec tout le travail avec mon pédopsychiatre où j'ai réussi au fur et à mesure à m'attacher, à aller vers ma mère adoptive. Et que j'appelle, c'est ma mère, il n'y a pas de sujet sur ça maintenant. Mais j'ai eu 2 ans très compliqués quand je suis arrivée.
Et quand tu étais ado, tu avais le droit de toucher à cette pochette, de regarder, vous y aviez accès?
Oui, j'ai toujours eu accès à cette pochette, mais en fait, après tout le travail avec le psychologue, j'ai laissé de côté. En fait, oui, je pense que j'ai lâché prise et j'ai laissé cette pochette jusqu'à l'adolescence. Et l'adolescence, c'est en fait, il y a eu un moment un peu marquant. Comme on se l'est dit, bah, je suis noire. J'ai été plutôt dans des écoles privées et donc il y avait très peu de personnes de couleur avec nous. Et même dans les villages où on a grandi, on était les seuls. On était d'ailleurs les enfants du village, c'était très sympa. Parce que quand on est arrivé en France, tout le village avait été préparé à notre arrivée. Et donc, chaque enfant avait offert un cadeau pour nous. Et ce qui faisait que tous les 10 mai, c'était, on a 2 anniversaires. Tous les 10 mai, on avait une fête d'anniversaire avec des cadeaux où les enfants du village venaient et tout ça. Donc,
C'est bien
ouais,
ça.
ça c'est
Je
bien.
pensais que tu racontais un truc négatif, je me disais, mais
Non,
jusque-là, je trouve ça super.
non, non, c'est génial. Et donc, en fait, j'ai grandi qu'avec des enfants blancs. Et c'est au lycée, où j'ai été dans un lycée public, où là, il y avait pas mal de jeunes de couleur. Et à l'adolescence, on a tous un moment, on commence à adorer la culture américaine, où on se dit, ah, mais Martin Luther King, c'est fantastique, Malcolm X, c'est fantastique, mais un peu différent quand même, un peu plus complexe. Et je me retrouve à avoir des amis qui s'appellent Fatoumata, avec des prénoms, avec d'autres consonances qui sont pas des consonances françaises. Et elle commence à me poser des questions. Et à me dire, mais qui sont tes vrais parents? Tu es noir, tes parents sont blancs, mais qui sont tes vrais parents? Et donc il y a cette question qui revient tout le temps. Et je me dis, et j'ai 15 ans, 15 ans et demi, et là je me dis, mais je sais qui sont mes vrais parents. J'ai une pochette et donc je commence à me dire, eh ben je vais lui écrire. Et donc là j'écris une longue lettre à ma mère pour lui dire ce que je suis devenue, où j'en suis, que je suis au lycée, que tout se passe bien, que je la remercie pour ce qu'elle a fait, parce qu'on a une très belle vie en France. Et j'attends, et j'écris à l'adresse qu'il y avait, en me disant, bah, elle me répondra si elle veut. Et quelques mois plus tard, je reçois une réponse. Et cette réponse, c'est une réponse de mon père biologique. Et là, je suis frappée par une chose en premier, c'est qu'il a une écriture magnifique. Il utilise un français qui est soutenu, qui est vraiment un très très beau français, une écriture magnifique. Et là, il me raconte bah, un tout petit peu de ma vie. Et il m'annonce que ma mère biologique est décédée depuis 1988. Qu'elle est décédée le 1er juillet 1988. Ça, c'est mon premier choc. Vrai choc parce que moi, je suis née le 30 juin. Donc, à partir de là, mon anniversaire, je ne le verrai plus jamais comme je l'avais avant parce que je me suis dit, bah, elle a attendu que j'aie 9 ans et elle est morte. Et là, c'est l'urgence. L'urgence de retourner en Haïti, parce que je me dis, bah, si ma mère est morte et que moi j'ai grandi pendant tout ce temps en me disant, quand je serai plus grande, je vais la revoir et elle pourra m'expliquer mon histoire, là c'est plus possible. Donc je me dis, il faut que je rencontre mon père. Et du haut de mes 16 ans, je vais voir ma mère, je lui dis, il faut que je retourne en Haïti. Et il faut que je rencontre mon père. Dans cette lettre, j'apprends qu'il y a des grands demi-frères, qu'il y a des grandes demi-sœurs. Et je dis, bah voilà, j'explique à ma mère, bah, c'est important pour moi. Il faut que je voie ces personnes avant qu'elles meurent, parce que sinon, je n'aurai jamais mon histoire. Alors là, contre toute attente, ma mère accepte.
Et tu t'attendais pas à ce qu'elle dise oui?
Non, je m'attendais pas à ce qu'elle dise oui, que je pouvais retourner. Elle accepte, donc on fait mon passeport. Et elle me dit, par contre, si tu y retournes, j'y vais avec toi. Et ça, c'est ce moment-là est assez drôle, c'est que je dis non, j'y vais toute seule, c'est mon histoire, c'est pas la tienne.
Mais t'es un bébé, t'as 16 ans.
Dans ma tête, j'ai pas 16 ans. Et elle me dit, bah non, tu peux pas y aller toute seule, j'y vais avec toi. Et je ne sais pas comment je réussis à faire ça, mais je réussis à le faire. Je lui dis, ok, si tu viens avec moi, tu ne viens qu'une semaine. On y va 15 jours, tu viens qu'une semaine et moi j'y vais 15 jours. Donc
et j'ai une question, excuse-moi. Vas-y. Est-ce que tu sais de comment est morte ta maman?
Oui, elle est morte d'une tuberculose. Ça a rajouté du drame parce que je me suis dit mais on meurt pas d'une tuberculose, il y a les vaccins. Que c'était vraiment la mort, une des morts les plus injustes, parce qu'elle aurait pu être soignée. Et sauf que non, elle aurait pas pu être soignée parce que c'est pas la France, c'est Haïti. Et Haïti, la situation est très compliquée depuis des années, et particulièrement dans les années 80, avec la guerre civile, les tontons Macoutes, Baby Doc. Et donc je peux pas mettre en parallèle un système médical en France et un système médical en Haïti, mais Je penserai toujours que c'est une injustice absolue, que j'aurais pu la revoir si elle n'était pas décédée. Et donc ma mère me dit oui. Ça devait être en juin ou juillet, et on décide de s'organiser pour partir pendant les vacances de février qui vont suivre. Donc j'ai 16 ans. Et on se retrouve à prendre l'avion. Et le premier choc, c'est quand on atterrit et qu'on descend les marches de l'avion. Et en fait, j'ai toutes les odeurs qui arrivent d'un coup dans mon cerveau. Et c'est comme si tout revenait d'un coup à 16 ans. Donc je suis à l'aéroport là sur les marches de l'avion, et j'ai toutes les émotions, toutes les odeurs, et je comprends que les personnes qui se mettent à me parler en créole, parce qu'en Haïti on parle soit créole, soit français, ou parfois espagnol, je réalise que je comprends ce qu'ils me disent, alors que pour moi tout ça ça n'existait plus. J'ai pas de mémoire avant mes 4 ans. Donc
et en fait, ton cerveau avait conservé tout ça.
Mon cerveau avait tout conservé. Donc et même la chaleur qu'on a tout d'un coup, tout ça pour moi c'est normal. Je suis à la maison. C'est très très particulier. On se retrouve dans une pension de famille à Port-au-Prince, pas très loin de l'orphelinat où on a été avant l'adoption. Et on se retrouve avec une sœur qui s'appelle la sœur Anani, qui a été une personne très importante pour moi, parce que c'est elle qui s'est occupée de nous quand on était petits à l'orphelinat. Et quand je me retrouve avec elle, c'est comme si je l'avais toujours connue. Et elle se met à me parler, elle m'explique de comment j'étais quand j'étais petite, elle me serre dans ses bras... Et c'est un très très beau moment parce que elle me parle en créole et je comprends ce qu'elle me dit, alors que pour moi le créole n'existait plus. Et je lui pose des questions sur moi et je lui dis, mais quand j'étais petite, ça veut dire que je parlais? Elle me dit, bah oui, tu parlais tout le temps. Et elle me dit que j'ai pas changé en fait par rapport à quand j'étais petite. Et là, on s'organise pour aller au nord d'Haïti à Port Margot, où je suis née et où vit toujours mon père. quand ils ont su qu'on allait arriver, parce que ma mère avait prévenu l'orphelinat qu'on allait venir, tout le monde était au courant qu'on allait venir, il y a mon oncle, le frère, un des frères de ma mère biologique qui est là, qui est venu des États-Unis et qui est là pour nous accueillir et nous emmener jusqu'au nord d'Haïti. Je me rappelle des paysages, des montagnes, des tap-tap sur des routes improbables et très dangereuses, mais j'ai pas cette notion du danger à ce moment-là. Et je suis heureuse et je leur dis que moi, ce que je veux, c'est vraiment rencontrer mon père.
Et comprendre.
Et comprendre mon histoire. Et donc, on arrive à Port Margot. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sœur est venue avec nous, sœur Anani vient avec nous, il y a l'oncle de le frère de ma mère qui est là. Et donc moi, mon but, c'était faire deux choses, c'était rencontrer mon père et aller sur la tombe de ma mère. C'était les deux seules choses que je voulais faire du haut de mes 16 ans. Et dès que j'arrive dans ce village, j'ai un sentiment de mal-être absolu que j'avais jamais ressenti. C'est comme si toutes les émotions revenaient et je sens que je me sens pas bien dans ce village. Je le dis à ma mère, normalement on devait rester une semaine dans ce village, je dis je pourrais pas rester plus d'une semaine, c'est trop dur. Et donc là, elle me dit que je suis une égoïste, que c'est pas bien, etc. Je comprends, c'est un grand voyage qu'on a fait et je dis je pourrais pas rester. Et de toute façon, je veux faire qu'une chose, c'est voir mon père. Et là, quand les premières personnes que je vois dans ce village, c'est mes grands-parents du côté de ma mère, qui eux me disent non, tu ne verras pas ton père, c'est pas une bonne personne, on veut pas que tu le vois. Et je dis bah non, je suis venue pour ça, donc je vais voir mon père. Et on commence à me dire oui, mais ton père, c'est quelqu'un de connu, c'est un monde différent, etc. Mais je ne comprends absolument rien. Moi,
oui, t'as 16 ans, tu sais que ton papa qui est là, tu veux le voir.
Voilà,
quoi.
Je veux le voir. Et donc, ils finissent par organiser le lendemain cette rencontre. Et donc, là, je vois mon père. Je vois une personne, une silhouette approcher. Qui porte un chapeau, et quand on porte un chapeau, dans certains pays, ça veut dire qu'on est important, et donc je comprends qu'il y a une différence de classe, et il vient vers moi, et là, je vois enfin à qui je ressemble. Parce qu'en fait, oui, ce qui a été très compliqué aussi pendant mon enfance, c'est que ma grande sœur, on se ressemble pas du tout, et avec mon frère, on se ressemble beaucoup, parce qu'on on pourrait nous considérer comme des jumeaux, vu qu'on a qu'un an d'écart, mais j'arrive pas à voir à qui je ressemble. Et sur les photos avec ma mère, je lui ressemble pas à elle. Donc je vois enfin mon père. Et en fait, en voyant mon père, je vois mon frère. Et je me dis, ah oui, on lui ressemble à lui. Donc déjà, ça fait du bien. Donc mon père vient et on se met à se parler. J'arrive même pas à me dire ce qu'il y a autour. Je pense qu'il y avait ma mère sur un côté. Voilà, donc on parle avec mon père et donc il me serre dans ses bras et je lui dis bah je veux savoir en fait, je veux savoir mais pourquoi on a été adopté.
Ouais.
Pourquoi? Et là il me dit une phrase qui terrible pour moi, il me dit c'est trop compliqué, tu n'as pas l'âge pour ça, je ne te dirai rien.
C'est l'enfer
absolu. Et je dis mais non, je veux savoir. Il fait non, c'est des histoires d'adultes. Et ça va être le marqueur parce que je à partir de là, je ne veux faire aucun lien avec lui. Comme il ne veut pas parler et que l'autre personne qui aurait pu me parler est dans une tombe, pour moi, ça veut dire que je vais pas avoir mon histoire et je saurai jamais pourquoi j'ai été adoptée. Et donc j'apprends à ce moment-là que mon père est médecin, donc ça rajoute de l'énervement sur son compte parce que ma mère est morte d'une tuberculose, qu'il a été maire d'une des plus grandes villes d'Haïti et donc que c'est vraiment quelqu'un d'important. que j'ai des grands demi-frères, des grandes demi-sœurs, qu'on a vécu avec lui, mais tout reste flou. Mes grands-parents ne veulent pas parler de l'histoire, de ce qui s'est passé. Personne ne veut me raconter.
Et donc, tu rentres en France en n'ayant pas de réponse.
Avant de rentrer en France, je vais sur la tombe de ma mère. Ça, pareil, ils ne voulaient pas que j'y aille parce que pour eux, ils considéraient que ce serait trop de douleur et tout ça, ce qui a été vraiment douloureux. Clairement, se retrouver devant la tombe de ma mère, c'est un des pires moments de ma vie. Et en même temps, j'ai pu lui parler, lui dire que je reviendrai pas. Que c'était fini. Et la nuit qui suit ça, je fais une nuit de cauchemars, que des cauchemars. Et je dis à ma mère, je ne peux pas rester dans ce village. On se dispute, elle finit par accepter, et donc je retourne à Port-au-Prince, et je reste à Port-au-Prince, et ma mère repartait, elle, vu que j'avais réussi à avoir une semaine supplémentaire, et en fait, pendant la semaine supplémentaire, je l'ai passée avec sœur Anani, qui a essayé de m'apaiser, en fait, sur mon histoire. Et en fait, elle m'a parlé de moi petite et ça m'a fait un bien fou. Et je suis rentrée en France dans un état un peu particulier. Je sais pas mon histoire, tant pis. Je ferai pas de lien avec mon père, mais par contre, je vais faire des liens avec mes grands demi-frères, mes grandes demi-sœurs, mon oncle, avec tout cela, ok, mais pas avec lui. Et c'est ce que j'ai fait. C'est aussi pour ça qu'après, une fois par an, quasiment, j'allais aux États-Unis parce que mes grands demi-frères vivent aux États-Unis, mon oncle aussi. Et c'est comme ça, c'est grâce à ça aussi que je suis devenue bilingue, c'est que tous les ans, j'allais aux États-Unis chez eux pendant mes vacances pour apprendre à les connaître. Donc, je me suis fait ma famille, une double famille. Ouais.
C'est ce que j'allais te dire. Ouais. On va faire avance rapide jusqu'à il y a quelques années.
Ouais.
Parce que il y a quelques années, il y a un rebondissement dans ton histoire avec ton père.
Oui, c'est l'année dernière. Il y a un an pile, quasiment. Il y a un de mes grands frères qui vit à Minneapolis qui m'appelle et qui me dit « Lunise, je dois t'annoncer que notre père est gravement malade ». Je dis, comment ça, gravement malade? Il est en phase terminale d'un cancer. Il est à côté de Miami. Voilà, c'était pour te le dire. Tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, il est en phase terminale. Il est dans un centre de soins palliatifs. Donc ça se compte en semaines ou en mois. Même pas en mois, ça se compte en semaines. Et là, donc, je me mets à réfléchir sur qu'est-ce que je fais. J'ai 43 ans. Est-ce que je décide que tout ça s'est clôturé ou est-ce que j'y vais? J'ai mis 3 semaines à peu près à me décider et très vite vient quand même l'idée qu'il faut que j'y aille parce que si je veux avoir un bout de mon histoire, il faut que j'aille aux États-Unis.
Tes frères et sœurs font partie du voyage ou pas?
Non, j'y vais seule. Et pas mal de ces choses-là, je les ai fait seules. Parce qu'en fait, avec l'adoption, on n'est pas tous au même niveau sur nos attentes. C'est-à-dire que moi, mon petit frère, lui, il est retourné en Haïti aussi, à l'adolescence. Ça lui a fait du bien, il est retourné plusieurs fois en Haïti. Ma sœur n'a jamais voulu y retourner. Et parce qu'elle avait 6 ans, donc c'est pas le même âge. Elle a jamais voulu retourner et pour elle, elle a clôturé ça. Elle ne veut rien savoir de sa vie d'avant. Et donc je me décide et donc je pars à Miami début novembre. Et même sur ce voyage, c'est un peu compliqué parce que comme il y a le Covid et tout ça, on m'annonce la veille de mon départ que en fait dans l'hôpital où il est. Il y a le Covid, donc je pourrais peut-être pas le voir. Et donc je dis, non, c'est trop tard, mon billet est pris, donc j'y vais. En arrivant à Miami, j'appelle le centre de soins palliatifs. Je leur demande si on peut visiter ou pas. Ils me demandent si je suis vaccinée, toutes ces choses-là. Je dis oui. Ils me disent, l'unité n'est pas concernée par le Covid, donc vous pouvez venir. Et donc, dès le lendemain, Je prends un Uber, je vais jusqu'à l'hôpital et je marche. Et quand je suis dans le couloir, je me dis non, mais qu'est-ce que tu fais là? Repars. Repars, tu peux pas, c'est trop, ça va être trop dur peut-être à supporter. Qu'est-ce que tu fais là? Et je me vois marcher et c'est une marche lente. Je n'ai jamais marché aussi lentement. Et j'arrive devant sa porte, parce qu'ils mettent les noms des patients devant les portes, et je frappe, il me dit d'entrer, je rentre, et je vois, bah, bien entendu, qu'il ne me reconnaît pas, et c'est normal, on ne s'est pas vu depuis mes 16 ans. Et j'avais pensé à quelque chose dans mon téléphone, il y avait une photo d'Amaral des 2 mois, tout petit, quand on devait avoir. Qu'on devait avoir notre premier été en France, donc on devait avoir 4 et 3 ans. Et je lui montre la photo. Et là, tout de suite, il dit mon prénom, il dit Lunise. Et je dis oui. Et là, il dit Amaral, parce qu'il voit mon frère. Et là, son regard s'illumine. Face à moi, j'ai quelqu'un qui est malade, donc qui est fragile. C'est pas du tout la même personne que quand j'avais 16 ans. Et il a des larmes de joie en me voyant. Moi aussi, c'est très émouvant. En plus, au début, j'avais mon masque parce que comme il y a le truc de Covid, donc je le retire et on se met à parler. Et on parle de tout, de tout, de toute bah, de sa vie, de mes grands-parents. Bah de sa date de naissance que je pense que j'avais même pas, donc j'apprends qu'il est né le 20 juin. On parle de tout, de ses études, de ce qu'il a fait. Et on retrace toute notre histoire. Et donc, bien entendu, à un moment, je lui dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi on a été adopté? Je comprends pas. Tu étais médecin, tu faisais partie des personnes les plus riches en Haïti, donc. Comment tu peux expliquer qu'on ait pu être adopté? Et là, il me dit, c'est plus compliqué que ce que tu penses. On est tous les deux assis et il se met à me raconter l'histoire, mon histoire. Il me dit qu'avec notre mère, ils étaient très heureux, très amoureux, qu'on est les enfants de l'amour. Mon frère et mon petit frère et moi, parce qu'en fait ma grande sœur c'est ma demi-sœur, elle avait un père différent.
Tu le savais, ça?
Oui, on l'a su, je l'ai su à 16 ans. Avant je le savais pas. Et il nous explique comment on a grandi, comment tout se passait bien, qu'il lui il était, il avait jamais divorcé de la mère de mes grands demi-frères, mais ils étaient plus ensemble depuis des années parce que en Haïti on divorce pas forcément et puis faut se rappeler qu'on est dans les années 80, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et qu'on est très heureux, qu'il connaît très bien le président. Baby Doc, les Duvalier à ce moment-là, qu'on s'est retrouvés à aller au palais présidentiel, que vraiment on a eu une enfance très heureuse. Et il m'explique que il a commis une erreur, l'erreur que font parfois les hommes et les femmes, il a trompé ma mère. Et elle l'a appris et elle a péter les plombs, ce qui est normal, tu te fais tromper, c'est l'amour de ta vie, bah, tu craques. Sauf que son pétage de plomb a été beaucoup plus fort. Elle a tout préparé et elle nous a enlevés. Donc, en gros,
Elle s'enfuit.
elle s'enfuit avec nous, avec mon petit frère et ma grande sœur, et elle nous a emmenés à Port-au-Prince. Sauf que Port-au-Prince, pour que vous ayez une idée de ce que c'est, on peut rien trouver entre les bidonvilles, entre c'est juste pas possible de retrouver. Et puis on est en 82, on est en pleine guerre civile, autant dire que.
Tu dis ça parce que il vous a cherché frénétiquement.
Oui, il a porté plainte, il nous a cherché frénétiquement, il nous a pas retrouvé. Et nous, à Port-au-Prince, quand on est avec elle. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, elle est tombée malade assez vite d'une tuberculose et le sanatorium lui a dit qu'elle pouvait pas garder les enfants. Et elle s'est dit, le mieux c'est de nous faire adopter. Sauf que on avait été reconnus à la naissance, ce que je ne savais pas parce que les papiers qui ont été faits pour l'adoption, c'est uniquement elle, c'est-à-dire que c'est comme si on était né de mère seule. Et donc elle a pu nous faire adopter. Ce que j'ai appris, c'est qu'elle a trafiqué nos papiers pour qu'on puisse être adoptable, sinon on n'aurait jamais été adopté. Et comme on était trois, il y a eu, je sais pas, une espèce de procédure d'urgence, parce qu'en gros, on s'est retrouvé à l'orphelinat seulement de décembre 80, non, de janvier 83, et on a été adopté en mai.
Oui, donc ça allait très
Donc
vite.
ça, tout a été très rapide. Et en plus, il y avait une clause pour, on ne devait pas être séparés. En fait, c'est ce qu'avait fait notre mère. Donc on se retrouve à être adopté. Notre père nous cherche, il ne nous trouve pas, et en fait, il trouvera enfin notre trace, mais quelques mois après notre adoption. Et sauf que c'est une adoption plénière, il n'y a plus rien à faire. Voilà.
T'en as voulu à ta mère rétrospectivement? Est-ce qu'on peut en vouloir à une mère qu'on n'a pas connue et qu'on aime et qu'on a perdue? Enfin, c'est tellement complexe le mélange de sentiments.
L'histoire est tellement complexe que je peux pas lui en vouloir. Je peux pas lui en vouloir tout simplement parce que elle a fait un geste d'amour infini
Bien sûr.
en nous faisant adopter tous les trois, qu'on soit pas séparés, qu'elle a compris que vu sa maladie et que ça se passerait pas bien et qu'elle voulait qu'on ait un très beau destin, c'était son espoir, donc je lui en ai pas voulu. Par contre, quand j'ai appris l'an dernier toute l'histoire, ouais, sur le moment, ça fait très mal parce que on peut pas revenir en arrière sur ce qui a été fait, mais c'est très douloureux. Ce qui est très douloureux, c'est de se dire, mais j'aurais pu avoir une autre histoire. C'est les j'aurais pu. Et
Oui,
ça,
c'est le battement d'ailes du
c'est
papillon qui a...
exactement. Et donc là, en discutant avec mon père, il m'explique que ça a été tellement douloureux pour lui qu'à partir de là, il s'est dit qu'il n'aurait plus jamais d'enfant. Et donc, il a fait une vasectomie pour ne plus jamais avoir d'autres enfants après nous. Et ça m'a touchée, en fait. Et en gros, nous, Amaral et moi, on était l'événement le plus terrible de sa vie.
Ça t'a rassuré sur l'amour qui te portait, en
Oui,
fait.
ça m'a rassurée. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a apaisée. Parce que de se dire que on était le fruit d'un vrai amour, un amour un peu trop fou, vu ce que ça a causé, mais ça fait un bien fou parce que dans l'adoption, il y a la notion d'abandon. Et donc, peu importe tout l'amour qu'on peut avoir, en nous, il y a toujours une déchirure et le fait qu'on n'a pas voulu de nous, qu'on a été abandonné. Donc, grandir sur cette faille, c'est très très compliqué et ça nous suit pour tout. C'est-à-dire aussi bien dans les amitiés qu'on peut avoir, parfois dans les relations professionnelles, il y a toujours quelque chose qui peut lâcher parce que si on touche à cette faille qui nous a fragilisés dans notre construction, ça peut être très compliqué, on peut ne pas se relever. Voilà.
On va pas en parler aujourd'hui, mais tu as eu une endométriose très 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 grave.
Tout à fait.
Tu as été opérée, ça t'a sauvée. Et il y a quelque temps sur les réseaux sociaux, tu as écrit un truc qui m'a bouleversée. Est-ce que tu peux nous raconter ton rapport au voyage, à l'argent et à l'espoir?
Ouais. En fait, l'endométriose, ça a été une de mes déflagrations aussi. Et en fait, je pense que tout est lié. Quand on a eu plein de chocs dans sa vie, On a différentes façons de s'en sortir. Être battant, mais ça, beaucoup de personnes le sont. Et moi, je le suis particulièrement, c'est-à-dire que je ne m'avoue jamais vaincue, je me bats tout le temps. Et c'est vrai que quand j'ai eu cet enchaînement de maladies, parce que j'ai eu deux choses en même temps, j'ai eu la thyroïde qui a dysfonctionné et l'endométriose, je me suis dit, mais je peux pas en mourir, mais ça me met vraiment à plat et c'est en train de me détruire. Et j'avais perdu espoir, je n'arrivais plus du tout à me projeter. C'est-à-dire que peu importe, même si j'ai eu l'un des meilleurs chirurgiens au monde sur mon opération qui a duré 6 heures, j'ai pris beaucoup de poids à ce moment-là parce que les hormones, les traitements, c'était très compliqué. Donc il fallait que je me redécouvre, que je redécouvre mon corps, que je m'accepte, ce qui a été très dur et qui maintenant j'y arrive. Donc c'est beau. Mais c'est vrai qu'il y a eu j'ai eu un moment tellement compliqué que je n'arrivais plus à avoir de perspective. Donc, ne plus avoir de perspective dans la vie, c'est que, par exemple, par rapport à l'argent, eh ben, on dépense, on se fait plaisir tout le temps parce qu'on se dit, bah, on sait pas ce qui va se passer demain, donc pourquoi garder quoi que ce soit, c'est trop compliqué. Et c'est vrai qu'avec tout ça, ce voyage à Miami, d'avoir revu mon père, d'enfin pouvoir être sereine, ça a pris du temps, mais maintenant, ça y est, je revois, j'arrive à me dire qu'il y aura des belles choses, que je vais être heureuse, que je le suis, clairement, depuis un an. Même, je pense que mon visage a changé, les expressions que je peux avoir ont changé, je suis optimiste, ce qui n'existait plus. Et c'est vrai que ça fait un bien fou. Et de savoir que j'ai été aimée, que ma vie, c'était pas seulement des choses sombres, ben ça m'a fait un bien fou. Et ce qui fait que maintenant, j'arrive à avoir des perspectives. Maintenant, je suis en train de me dire, mais peut-être que je pourrais acheter un appartement, peut-être que je pourrais faire ça. Et voilà, ce que je ne faisais absolument pas avant.
Donc tu commences à faire des économies.
Oui, oui,
C'est ça qui m'avait fait
c'est
rire.
assez miraculeux.
Quand je crois en l'avenir, maintenant j'arrête de dépenser mon blé.
C'est ça. J'arrête et je pense à moi. Et je pense à moi dans le futur parce que une des choses que mon père m'a dit quand je l'ai vu, il m'a dit, et toi maintenant, mais t'as réussi ta vie. Et là, je lui ai expliqué qu'en fait, c'était plus compliqué que ça. Il a pleuré avec moi sur les moments difficiles. Et il m'a dit, mais tu peux pas sacrifier ton avenir. Si un jour t'as envie d'avoir des enfants, même si ça devient de plus en plus complexe, n'hésite pas si t'as envie de faire des choses et d'avoir cette voix-là. Et bah, par mon père, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Et puis la seule chose que je lui ai demandé quand on était sur place, je lui ai demandé de m'écrire. Parce que je suis fan de son écriture. Donc j'avais pris un carnet avec moi où je prenais des notes de ce qu'il me disait. Parce que je me disais que j'étais aussi un porteur de mémoire, bah, pour mon frère, qui n'était pas là. Donc j'ai pris des notes et puis je l'ai fait écrire dans mon carnet avec son écriture magnifique. Et dans mon carnet, il m'a écrit qu'il m'aimait, qu'il était très heureux que je sois venue. Et ce que j'ai su, c'est que après, il a eu 3 mois où il était en pleine forme, très heureux parce que j'étais venue en fait. Voilà. Donc je suis contente que sa fin ait été douce. Voilà.